Micro-ondes, l'émission en direct de Radio Royan-Vercors. À écouter chaque jeudi de midi à 13h et en rediffusion le vendredi soir à 19h. Invité au micro, actu local, agenda culturel et coup de cœur de la rédaction. Micro-ondes, promis, c'est pas du réchauffé. Bienvenue à toutes et à tous sur 93 FM, vous écoutez Radio Royan-Vercors, vous pouvez également nous écouter d'ailleurs en streaming sur radioroyan.fr et nous sommes actuellement en direct donc pour cette nouvelle émission sur nos ondes qui s'appelle Micro-ondes, qui se déroule donc la plupart du temps au studio de Radio Royan-Vercors, donc qui se situe à Saint-Jean-Royan sur la place de l'église, dans les locaux de l'office de tourisme, et donc on reçoit pour cette émission des invités en direct pour prendre le pouls en quelque sorte des actualités donc du territoire du Royan-Vercors et parler de ce territoire en leur compagnie. Donc cette émission a déjà lieu depuis quelques semaines. Vous avez pu entendre notamment donc pour la toute première édition début avril l'association Courbouillon avec Mila, Annabelle et Hugues qui sont venus au studio. Donc c'était à propos de démocratie alimentaire et notamment de sécurité sociale de l'alimentation. Ensuite, à la mi-avril, c'est Céline qui a reçu Naïm, alias l'Inconsolable, pour évoquer son nouvel album qui s'appelle « Nos rêves font des forêts ». Et enfin, le 23 avril, c'était un studio cette fois-ci délocalisé, donc en direct de l'Arsolite, qui est ce centre culturel à Saint-Jean-Royan, et où Patrice échangeait donc avec plusieurs invités pour découvrir la nouvelle exposition donc de l'Arsolite qui porte sur le Japon, qui s'appelle « Inspiration Japon ». Et donc pour réécouter donc toutes ces émissions, vous pouvez vous rendre sur notre site internet radioroyan.fr ou sur les plateformes donc de podcast. Mais aujourd'hui, donc dans Micro-ondes, je vous annonce tout de suite le programme. On va commencer par une chronique coup de cœur où on va donc s'intéresser à un lieu, le dispensaire de soins naturels de Saint-Laurent-en-Royan, qui fête déjà donc ses un an d'existence. Ensuite, nous vous proposerons un zoom sur l'association Super Maman qui propose un soutien aux mamans pendant leur postpartum, c'est-à-dire la période qui suit donc la naissance de leur bébé. Et on discutera en direct avec Océane Chazot, donc qui coordonne cette association dans le département de la Drôme. On s'intéressera aussi à un lieu emblématique du territoire qui est situé à Pont-en-Royan. C'est la halle qui fête ses 40 ans, à la fois centre d'art et médiathèque, donc ce lieu un peu atypique. Nous retrouverons Giulia Turati qui est responsable du lieu d'art, donc pour revenir sur l'histoire de ce lieu et sur toutes les festivités qui sont prévues donc pour cet anniversaire important des 40 ans. Et enfin, on terminera l'émission par un agenda de cette fin de semaine qui est concocté par Céline. Toutes ces propositions seront entrecoupées de pauses musicales qui sont possibles notamment parce que Gaël est à mes côtés donc pour ce direct pour la technique. Et on va tout de suite donc commencer cette émission par le coup de cœur de la semaine. Donc je vous le disais, sur le territoire du Royan-Vercors, il y a un nouveau lieu qui a vu le jour il y a déjà un an. Et ce lieu, c'est le dispensaire de soins naturels Verta Santé. Et dans cette chronique coup de cœur, je vous propose un retour sur la première année d'existence de Verta Santé. Alors Verta Santé, donc je vais vous expliquer tout d'abord ce que c'est. Shiatsu, naturopathie, yoga ou encore réflexologie, ça fait maintenant plus d'un an que le dispensaire de soins naturels Verta Santé a ouvert ses portes à Saint-Laurent-en-Royan pour promouvoir et rendre accessibles à toutes et tous les médecines alternatives et complémentaires. Depuis janvier 2025, ce nouveau lieu qui est situé sur la place de l'église dans les locaux de l'ancienne cure, donc à Saint-Laurent, propose des consultations individuelles à des tarifs modestes, entre 5 et 25 euros selon les revenus. Il ouvre pour le moment deux après-midi par semaine, chaque mercredi et chaque jeudi de 14h à 18h. Et après un an d'existence, le bilan est très positif avec plus de 150 adhérents et adhérentes qui ont rejoint le dispensaire en 2025. Puisque le principe, c'est qu'il faut donc adhérer à l'association pour bénéficier d'un soin pour un coût annuel de 5 euros. Et il y a un total de près de 300 séances qui ont été données par les praticiens et les praticiennes bénévoles. Les bénéficiaires du dispensaire viennent de tout le Royan-Vercors, mais aussi d'Autran, de Rancurel, de Saint-Romand et même de Romans ou encore de Bourg-les-Valence. Et il y a également désormais des habitués qui reviennent régulièrement donc pour bénéficier de soins. À noter que l'association Verta Santé regroupe des praticiens et des praticiennes, mais aussi des accueillants, des accueillantes, qui coordonnent en fait les rendez-vous et les inscriptions, qui renseignent les bénéficiaires et qui les accompagnent à leur arrivée au dispensaire et à leur sortie. Alors aujourd'hui, l'équipe compte une trentaine de bénévoles en tout, mais elle peut encore s'étoffer, notamment du côté des accueillants, des accueillantes. Et c'est un appel à bénévoles, car l'association manque parfois donc de bénévoles accueillants et accueillantes pour assurer les permanences d'ouverture. Alors si vous souhaitez vous aussi participer à ce projet, donner de votre temps pour faire vivre ce joli lieu à Saint-Laurent, n'hésitez pas à les contacter ou à venir rencontrer l'équipe aux horaires d'ouverture. Donc leur site internet c'est vertasanté.fr et leur adresse mail vertasanté@mailo.com. Le dispensaire va également organiser cette année encore des portes ouvertes et c'est une belle occasion aussi de venir donc découvrir le dispensaire, de rencontrer l'équipe. Vous pouvez déjà noter la date dans vos agendas, ce sera le samedi 27 juin à partir de 16h. Et je terminerai cette chronique par une liste non exhaustive des séances qui sont actuellement proposées par Verta Santé. Donc du shiatsu, je le disais, de la naturopathie, la méthode Feldenkrais, de la somatopathie et méthode Poyer, kinésiologie, massage intuitif, massage Twina, réflexologie, yoga ou encore massage ostéotaille ou encore séance énergétique. Voilà, ce n'est pas donc une liste exhaustive, je le rappelle. N'hésitez pas à venir tester ces pratiques, à pousser la porte de ce dispensaire de soins naturels, donc Verta Santé, qui est situé, comme je vous le disais, à Saint-Laurent en Royan. Vous pouvez contourner l'église par la droite, admirer au passage les rosiers qui sont actuellement tous en fleurs et qui sont superbes. Et vous poussez la porte, donc c'est à droite la porte, et vous n'avez plus qu'à marcher jusqu'au fond du couloir pour accéder donc à l'accueil du dispensaire. C'est un lieu à découvrir et l'équipe vous attend. Voilà donc pour ce coup de cœur que j'ai souhaité vous présenter aujourd'hui, donc un coup de cœur qui concerne ce dispensaire donc à Saint-Laurent-en-Royans, le dispensaire de soins Verta Santé. Et on poursuit tout de suite cette émission qui, je vous le rappelle, est en direct avec un focus aujourd'hui sur l'association Super Maman, une association qui propose un soutien aux mamans pendant leur postpartum, c'est-à-dire juste après la naissance de leur bébé. Et on retrouve tout de suite en direct Océane Chazot qui coordonne l'association dans la Drôme. Bonjour Océane.
Bonjour.
Océane, donc je le disais, tu coordonnes cette association Super Maman dans la Drôme. Peut-être que tu peux commencer par nous la présenter.
Oui, bien sûr. Donc l'association existe, a été créée en 2015 en Suisse. Elle a ensuite été exportée en France. Notre but est d'apporter un repas, enfin ce sont des bénévoles qui peuvent apporter un repas à des jeunes mamans, qui sont les mamans abichonnées. Les mamans abichonnées, ce sont de jeunes mamans qui soit sont enceintes, soit ont un bébé de moins de 6 mois. Ça peut être n'importe quelle maman, qu'elle soit en couple, qu'elle soit célibataire, peu importe. Et moi, je m'occupe de la Drôme.
D'accord, et donc c'est une association qui existe depuis longtemps ?
Depuis 2015.
Depuis 2015 déjà, d'accord, donc près de 10 ans. Et donc la Drôme, est-ce que la Drôme a tout de suite été un département qui était occupé par l'association ou est-ce que c'est assez récent comme développement ?
Alors non, ça a été depuis quasiment le début puisque la France a été séparée par chaque département. Et ensuite, il y avait... Alors au début, il n'y avait pas une maman qui coordonnait un département, mais petit à petit, ça a fonctionné comme ça. Mais voilà, ça a été national tout de suite par département.
Et donc l'idée, tu le disais, donc, c'est de prendre soin de ces mamans donc, pendant leur postpartum. Peut-être qu'on peut rappeler à nos auditrices, à nos auditeurs qui ne sont pas familiers avec ce terme, de quoi on parle quand on parle de postpartum ?
De jeunes mamans qui viennent d'accoucher et qui sont dans un moment où elles sont plutôt vulnérables avec la chute d'hormones, la fatigue, l'accouchement. Voilà.
D'accord. Et ça peut, donc c'est une période qui dure environ combien de temps après la naissance ?
J'ai envie de dire que ça dépend des mamans.
Oui, j'imagine. Mais ça peut durer plusieurs mois, par exemple ?
Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça que nous, on propose aux mamans qui ont des bébés jusqu'à 6 mois, parce qu'on sait que même quand les bébés... 5-6 mois, c'est encore une période qui peut être encore un peu difficile.
D'accord. Et est-ce que tu penses que justement ce postpartum, c'est une période dont on parle facilement aujourd'hui ? Est-ce que c'est quelque chose qui est un petit peu démocratisé ? Ou est-ce qu'au contraire, ces jeunes mamans n'osent pas trop forcément parler de leurs difficultés, les difficultés qu'elles peuvent rencontrer après la naissance ?
Alors je pense qu'on commence à en parler petit à petit. mais que c'est encore loin d'être assez discuté et assez connu, et surtout assez pris en compte. Je pense que les mamans entre elles peuvent se comprendre et se soutenir, mais que pour le reste des générations, c'est encore compliqué à comprendre.
D'accord. Et alors, tu parlais donc de ce que peuvent offrir donc ces mamans cadeaux aux mamans habichonnées. Donc, tu parlais éventuellement d'un repas, c'est ça qui est fait maison, et d'un temps de discussion. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu qu'est-ce que ça va recouvrir ce bénévolat?
Alors, il y a une maman cadeau par semaine en général qui vient voir la jeune maman. Le but premier, c'est d'apporter un repas fait maison afin de la soulager. Qui a un moment par semaine où elle n'a pas besoin de cuisiner. Et ensuite, elles peuvent prendre un moment pour échanger, pour discuter. Ça, c'est pas obligatoire. C'est selon si la maman habichonnée en ressent le besoin, si elle en a le temps. Mais la base première, c'est d'apporter un repas.
D'accord. Et les mamans donc, qui choisissent d'être bénévoles, les mamans cadeaux, qui sont-elles en général?
Bon, la plupart du temps, ce sont des mamans elles-mêmes. Il y a aussi des anciennes mamans habichonnées qui sont devenues mamans cadeaux. Après, ça peut être des grands-mères ou encore des femmes qui n'ont pas encore d'enfants. Mais ça, c'est quand même plus rare. Et il peut y avoir des papas.
Ah, ça arrive aussi également donc qu'il y ait des papas.
Mais c'est vraiment très rare, mais ça arrive.
Donc ça peut être un appel aussi si vous êtes papa ou si vous êtes un homme tout simplement et que vous souhaitez vous aussi offrir ce temps cadeau, voilà, n'hésitez pas à contacter l'association. Et donc on parlait aussi donc des mamans habichonnées qui reçoivent donc ce repas et ce temps partagé. Comment l'association va repérer entre guillemets ces jeunes mamans isolées?
Alors c'est pas nous qui allons vers elles. Nous on prospecte beaucoup, donc on va en parler aux sages-femmes, aux hôpitaux, sur les réseaux sociaux, ça marche beaucoup. On explique aux mamans comment s'inscrire. En général, elles s'inscrivent beaucoup pendant la grossesse, notamment parce qu'elles ont un peu plus de temps, qu'elles sont plus à l'aise. Mais on ne va pas les contacter directement, elles.
D'accord. Et est-ce qu'il y a des critères en particulier donc, pour bénéficier de ce soutien de l'association?
Non, aucun. Ça peut être absolument n'importe quelle maman. Donc on s'arrête, on a mis une limite au bébé, enfin que le bébé ait 6 mois. Mais dans certains cas, si la maman est vraiment dans une situation précaire, on peut organiser un bichonnage si le bébé est un peu plus vieux.
D'accord. Et quels sont les retours des bénévoles? Qu'est-ce que ça apporte d'un côté comme de l'autre, donc ce lien qui va se créer?
Alors en général, les mamans cadeaux, donc les bénévoles, sont ravis d'apporter cette aide. Elles ont une part où elles se sentent un peu utiles. Ça leur permet aussi de rencontrer des mamans et de pouvoir... discuter, échanger avec elles, partager leur expérience aussi. Et puis c'est toujours un peu gratifiant de se dire qu'on apporte de belles choses à une jeune maman. Et pour ce qui est des mamans habichonnées, c'est pareil, en général, elles sont super contentes de pouvoir rencontrer des mamans, de pouvoir discuter avec elles. Des fois même, elles gardent contact ensuite. Et puis oui, c'est vrai que ça les soulage et... ça permet aussi d'éviter un isolement social.
Oui, et puis c'est sans doute une manière également de prendre soin d'elles, tout simplement, alors qu'elles sont occupées à prendre soin de leur bébé aussi. Et alors, comment est-ce qu'on peut devenir à la fois donc, maman cadeau ou maman habichonnée?
Alors, dans les deux cas, il suffit de s'inscrire directement sur le site des super mamans. Pour ce qui est des mamans cadeaux, donc les bénévoles, il y a une adhésion d'€1. Et... pour les mamans habichonnées, absolument pas. Et lorsque vous vous inscrivez, nous ensuite on vous accueille et on organise soit le bichonnage, soit on accueille la maman cadeau en tant que bénévole.
D'accord. Et je voyais donc sur le site qu'il y a également des mamans contacts. Qu'est-ce que c'est exactement?
Bon, les mamans contacts, c'est exactement ce que je suis. C'est-à-dire que c'est la personne qui va s'occuper de son département. Donc c'est elle qui aura pour rôle de prospecter, d'organiser les bichonnages, d'accueillir les bénévoles, les mamans habichonnées. Voilà, c'est vraiment celle qui s'occupe de son département.
Et alors aujourd'hui, donc dans le département, tu le disais, c'est toi donc qui coordonne, qui est donc cette maman contact et qui va coordonner l'association. Est-ce que tu saurais me dire combien de personnes participent aujourd'hui à l'association dans la Drôme?
Oui, bien sûr. Alors déjà, on est 3 mamans contact maintenant. J'ai de la chance d'avoir 2 mamans qui m'ont rejoint pour m'aider. En tant que bénévole, on en a à peu près 150. Mais sur les 150, on en a 30 qui sont vraiment actives. Et pour ce qui est des mamans avichonnées, ça change. On peut en avoir beaucoup, beaucoup moins. Ça dépend vraiment des périodes. Là, par exemple, on n'a pas spécialement de mamans avichonnées, mais on sait qu'il y en a beaucoup qui vont accoucher cet été. Voilà, ça dépend vraiment des périodes de l'année.
Et alors, plus spécifiquement sur notre territoire à nous, donc le Royan-Vercors, est-ce que tu saurais aussi dire donc, si l'association est particulièrement active ?
Non, elle n'est pas beaucoup.
Pas beaucoup pour l'instant ?
Non, c'est encore une zone qui n'est pas très, très... qui est pas, ou peut-être qu'il n'y a pas assez de prospection, je n'en sais rien, mais en tout cas, on n'a pas beaucoup de bénévoles ou de demandes.
Ben c'est peut-être d'ailleurs un premier pas d'en parler aujourd'hui à la radio, donc ça peut être un appel qu'on lance à nos auditeurs, à nos auditrices. Si vous souhaitez à la fois donc contribuer, devenir donc maman cadeau ou alors recevoir ce repas et ce temps donc de partage de la part des mamans cadeaux, voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'association Super Maman. Et Océane, si on revient un petit peu à toi, quel est ton parcours en fait ? Pourquoi avoir choisi de rejoindre cette association ?
Alors, moi, c'est quand j'ai accouché, je suis maman solo, et à l'hôpital, on m'a parlé de cette association. Du coup, je me suis inscrite et j'ai été moi-même maman avichonnée. C'est comme ça que je suis rentrée dans cette asso. Donc, on m'a avichonnée, j'ai eu peut-être 5 passages de maman cadeau. Et quand je suis sortie de ma période de postpartum, quand ça allait un petit peu mieux, j'ai décidé de devenir maman cadeau. Donc, j'ai eu la chance de avichonner plusieurs mamans. Et l'année dernière, à peu près vers l'été, je me suis proposée d'être maman contact, de soutenir en fait la personne qui était déjà maman contact. Et c'est comme ça que je suis devenue la référente de la Drôme. Petit à petit, et je suis toujours maman cadeau d'ailleurs en parallèle.
Et est-ce que c'est un bénévolat qui te prend beaucoup de temps ?
Alors l'avantage, c'est qu'on choisit les bichonnages qu'on veut faire. Donc si par exemple c'est une période où on n'a pas envie, où on ne peut pas, on n'est pas du tout obligé. Et une fois qu'on s'est inscrite, le temps qui nous est nécessaire, c'est le temps de préparer le repas et ensuite d'aller voir la maman. Donc je dirais une demi-journée pour ce qui est du bichonnage en lui-même.
Et est-ce que tu as une anecdote particulière qui te revient en mémoire quand tu penses à toutes ces mamans que tu as rencontrées ?
Là, tout de suite, non.
Rien de spécial ?
Non.
Est-ce que tu vois des points communs souvent aux mamans donc, qui viennent juste d'accoucher, des sujets de préoccupation qui vont revenir très fréquemment, par exemple ?
Non, absolument pas. C'est vraiment des mamans qui sont vraiment de tous les milieux et qui sont vraiment très, très différentes. Voilà, ça peut être n'importe quel sujet. Et ça peut aussi être des mamans qui sont très bien entourées et qui sont... voilà, dans un quotidien plutôt calme. Donc vraiment, on a un petit peu de tous les genres.
Oui, c'est l'occasion, j'imagine, pour toi aussi, du coup, de rencontrer tout type de mamans de tous horizons que peut-être tu n'aurais pas eu l'occasion de rencontrer par ailleurs.
Tout à fait, et puis de se rappeler que le postpartum n'est pas évident ni pour celles qui sont seules, ni pour celles qui sont en couple. Voilà, en fait, on est toutes un peu dans le même bateau après un accouchement.
Oui, c'est une période de fragilité, sans doute, C'est très important, effectivement, d'avoir du soutien dans cette période-là. Eh bien, merci beaucoup. Donc, Océane, je le rappelle, Océane Chazot, qui coordonne l'association Super Maman dans la Drôme. Donc, une association qui vient en soutien aux mamans après la naissance de leur bébé, donc en postpartum. Alors, Océane, la liaison n'était pas très, très bonne. On était par téléphone en direct aujourd'hui. Donc, j'espère que nos auditrices et nos auditeurs ont pu quand même entendre toutes les choses intéressantes que tu nous as partagées. Et puis, sinon, on aura sans doute l'occasion de se reparler, j'espère. Donc, peut-être pour inciter des personnes du Royan-Vercors à rejoindre l'association. Merci beaucoup à toi en tout cas et très bonne journée.
Merci, bonne journée.
Et on poursuit tout de suite donc cette émission en direct micro-ondes par une petite pause musicale que je vous propose. Il s'agit d'un titre qui s'appelle Still Feeling Blue. C'est signé Samy Descoster et Digital Sauvage. C'est en fait un projet musical donc de Samy Descoster et de sa compagne dont le nom de scène est Digital Sauvage. Et donc c'est un extrait d'un album qui est sorti en 2024. On écoute.
Bring me back my horse, lead me to the fjords, I can be bold, my dear.
bring me to the shore. Lead me to the north, I'm coming home. My delicious you. I've tried to hold your hand so cold, but I'm still feeling blue. Sing me something new. Give me one.
Écoutez donc Samy Decoster et Digital Sauvage avec le titre Still Feeling Blue. Et donc, si j'ai choisi aujourd'hui ce titre à vous partager, eh bien c'est notamment parce que Samy Decoster, vous pourrez le retrouver prochainement dans le spectacle Prélude de Pan par la compagnie Scène Nationale 7. C'est en fait une adaptation scénique du texte intégral d'une nouvelle de Jean Giono. Et elle fait dialoguer les compositions musicales de Samy Decoster et l'interprétation du comédien Baptiste Rela. Et donc, pour découvrir ce spectacle, vous avez rendez-vous à la médiathèque de Saint-Jean-en-Royan le vendredi 22 mai. Ce sera à partir de 18h et c'est un spectacle donc qui est conseillé à partir de l'âge de 10 ans. Voilà, et sinon, je voulais également donc vous parler d'une actualité agenda de ce week-end avec la fête de la poule et de la graine qui aura lieu ce dimanche 3 mai à Saint-Laurent-en-Royan. Et Patrice a interviewé deux organisatrices, Evelyne Thésier et Janine Giraudin. Et donc, on écoute tout de suite un extrait.
Abordons, chers auditrices et auditeurs, une fête de territoire eh bien, qui commence à s'institutionnaliser sur le secteur du Royan-Vercors et particulièrement à Saint-Laurent-en-Royan à l'occasion du printemps, dimanche 3 mai, fête de la poule et de la graine. Un programme a été établi, il est très riche, nous allons d'ailleurs l'arpenter pour ce qui concerne tout ce qui donnera des thématiques et puis aussi des liens avec les parties organisatrices, dont deux représentantes autour de la table de Radio Royan Vercors. Et à cet effet, je salue Evelyne Thésier. Bonjour Evelyne.
Bonjour.
On vous connaît bien comme référente de cette poule grise du Vercors qui sera au centre des débats, tout comme l'animation et l'association qui en dépend de la bibliothèque ludothèque de Saint-Laurent-en-Royan. Bonjour Janine.
Bonjour.
Voilà, la fête de la poule et de la graine. Si vous le voulez bien, abordons le principe de cette manifestation qui, on peut dire, vous a donné beaucoup de travail, oui, beaucoup de sueur sur la mise en place de tout ce programme. Donc c'est pas une première, hein. D'ailleurs c'est peut-être deuxième.
La deuxième. C'est pas tout à fait la deuxième parce qu'il y a 10 ans, Evelyne avait déjà organisé une fête de la poule, hein, sans la graine. Et là, l'an passé, donc, elle a voulu réorganiser cette fête de la poule. Et nous, on s'est greffé dessus parce qu'elle, elle avait choisi la même date que nous. Donc on a dit, on va le faire en même temps puisque c'est quand même des thèmes assez proches.
Des thématiques assez proches, de part aussi un secteur de...
L'agriculture, la culture, l'élevage,
Et de cette fameuse grainothèque.
Voilà, la grainothèque. Alors, je tiens à te préciser qu'on co-organise entre l'association Ouancia, qui est tenue par Evelyne et un certain nombre de gens, hein, et l'association Bibliothèque Ludothèque, à travers sa grainothèque. Voilà, donc c'est vraiment deux associations qui sont distinctes, mais qui se sont rejointes pour faire la fête de la poule et de la graine.
Alors vous êtes retroussé les manches pour justement aborder cette fête dont Ouancia aussi est une partie bien prenante, Evelyne, n'est-ce pas, autour de
oui,
la grise.
Oui, alors on a voulu mettre en avant tout le monde rural, hein, à travers la poule et les graines. Donc, c'est pour ça qu'on a organisé un grand marché fermier qui s'est beaucoup étoffé depuis l'année passée. Et qui, oui, marché fermier qui regroupe des producteurs fermiers et des artisans d'art. Mmh. Et donc, on va pouvoir acheter, déguster beaucoup de produits qui sont... Donc, on a choisi de prendre des produits locaux à moins de 30 km autour de Saint-Laurent-en-Royans.
Voilà, c'est très local et ça résonne bien, hein, pour toutes les générations, pour tous les goûts. Hein, vous avez vraiment un côté très universel à cette fête.
Oui, et puis la fête sera donc autour de cette foire et aussi, ce marché. Et aussi, on a fait le choix de faire des ravioles, par exemple, à midi, mais avec du bouillon de poule pour que vraiment ce soit des vraies ravioles du Royans et du Vercors. Et également, on pourra déguster du poulet rôti qu'on va trouver sur le marché. Il va y avoir plein d'autres choses. Enfin, il y aura de quoi manger et de quoi se régaler pour tout le monde.
Voilà, largement toute la journée, dès la matinée, en début de matinée, jusqu'en fin d'après-midi, auquel est associée une marraine.
Oui, et la marraine. Alors,
qui est mise en avant aussi dans cette programmation.
Alors, je ne sais pas comment on a... Émilie Van Volsem, je pense que c'est ça. Mmh. Elle est du Diwa. Elle n'est pas inconnue dans le Royans puisqu'elle vient régulièrement dans les bibliothèques. Elle a rencontré des élèves de Saint-Laurent-en-Royans. Elle est illustratrice naturaliste. Elle fait de très très beaux dessins pour des livres d'enfants. Elle va faire un certain nombre d'animations. Elle va présenter son livre déjà, hein, et ensuite. Alors, faut que je m'y retrouve là-dedans. Oui, elle va faire un atelier de dessin naturaliste. Donc, ça sera, faudra observer, crayonner, colorer, apprendre à dessiner. Grâce à ses conseils. Et puis, elle fournira le matériel. Donc, à 14h15 à la bibliothèque, sur réservation, hein, bien entendu. Vous pourrez venir dessiner avec elle et apprendre la technique du dessin. Voilà.
Et si vous voulez voir un petit peu ses productions, vous pouvez toujours aller sur Internet, vous tapez Émilie Van Volsem et on voit tout son travail qui est vraiment magnifique.
Alors, elle va aussi exposer, puisqu'elle sera exposée à la bibliothèque toute la journée, et même plus que ça, puisqu'elle va, je crois qu'elle laisse un mois l'exposition à la bibliothèque. Voilà, et puis elle va signer ses ouvrages à 16h30. Voilà.
Ouais, on pourra acheter, donc c'est quand même essentiellement pour enfants, mais on pourra faire dédicacer et acheter des ouvrages pour ses enfants, ses petits-enfants, ses amis, enfin, etc.
Alors je vous propose de découvrir directement le programme, puisque ça recense tous les acteurs concernés par cette journée organisée par vos soins. Alors il y a des choses qui sont permanentes durant toute la journée, puis après des choses plus ponctuelles en matinée. En après-midi, on a commencé à esquisser ce marché fermier et artisanal. Hein. Lui, il se déroulera donc dans le centre-village de Saint-Laurent-en-Royan. Oui. Comment se constitue-t-il ?
Alors, le
marché, oui, il sera derrière l'église, donc voilà. S'appelle la rue du Tram. Mmh. Donc, toute la rue du Tram a été fermée à la circulation, et donc le marché sera installé tout le long de cette rue. Et je crois qu'on a oublié un partenariat, moi je tenais à le mettre en avant, c'est avec le comité des laboureurs de Saint-Jean. Ils ont accepté de nous faire une grosse poule de 1 mètre de haut en grillage, enfin comme ils ont l'habitude de faire pour décorer les chars. Et il y a un défi à relever, c'est-à-dire qu'on voudrait qu'à la fin de la journée, toute la poule soit décorée par des fleurs.
Ah.
Et moi, je les remercie parce que je trouve que c'est bien d'avoir différents partenariats avec d'autres associations locales.
Ouais. Et puis d'autres communes aussi hein, qui vous prêtent main forte pour ce marché où s'adjoignent différents producteurs du secteur.
Oui, alors il y a un apiculteur, par exemple, qui va nous faire en même temps une animation. Donc, qui vendra son miel, mais qui va nous... Donc, cette animation, elle est prévue le matin.
Voilà, à 10h30. Donc, Antonin va être sur son stand et qui sera près de la bibliothèque. Bon, ce serait bien de réserver quand même un petit peu, parce qu'il y a quand même pas mal de choses où on demande de réserver. Et il va faire une petite animation. Alors, ce sera la surprise, hein, vous verrez. Mmh. C'est autour du miel et des ruches et des abeilles.
Voilà, donc pour une partie du programme de cette fête de la poule et de la graine qui aura lieu dimanche 3 mai, je vous le disais, à Saint-Laurent-en-Royan. Et on écoutait donc Evelyne Thésier et Janine Giraudin au micro de Patrice, donc deux des organisatrices qui détaillaient donc un petit peu le programme de cette fête de la poule et de la graine. Et on s'intéresse maintenant, donc vous êtes toujours dans l'émission Micro-ondes en direct sur les ondes de Radio Royan-Vercors, on s'intéresse maintenant à un lieu emblématique du territoire. Il est situé à Pont-en-Royan. Il s'agit de la Halle qui fête ses 40 ans. C'est à la fois un centre d'art et une médiathèque. Et nous retrouvons tout de suite en direct Giulia Turati, la responsable donc de ce lieu d'art, la Halle, à Pont-en-Royan, donc pour échanger sur ce sujet. Bonjour Giulia.
Bonjour.
Bonjour. Alors, quand on parle de la Halle, je le disais, Giulia, on évoque un lieu qui est un petit peu atypique. Comment est-ce qu'on pourrait le présenter ?
Il est présenté comme un lieu troglodyte, mais c'est vrai qu'il hérite d'une architecture très particulière, qui est particulière mais assez répandue à Pont-en-Royan. Donc effectivement, il y a ces centres culturels qui est visible du quai de la Bourne, moins visible de la place de la Halle. Il s'éniche suspendu comme ça entre l'eau et la montagne. Donc c'est effectivement un lieu qui est riche en rencontres artistiques et autres, mais qui a aussi des spécificités qui sont celles de son village. Donc avec une histoire aussi qui est beaucoup plus ancienne hein, que l'ouverture de la Halle elle-même. Ouais.
Et alors, physiquement, quand on entre donc dans l'espace, comment est-ce qu'on peut décrire ça donc à nos auditeurs, à nos auditrices ? Il y a donc deux espaces qui s'ouvrent à nous.
Tout à fait. En fait, on l'a dit, on fête nos 40 ans cette année. Et l'aménagement actuel, ce qu'on peut voir, date plutôt des années 80. Une époque, effectivement, où il y avait une volonté à l'échelle nationale de créer des espaces d'art et de culture en région. Et à l'époque, les maires de Pont-en-Royan, Yves Pillet, que certains de vos auditeurs ont connu de personne, pas moi malheureusement, mais en tout cas était une figure assez marquante du territoire, a eu la vision de créer dans son village de à peine un millier d'habitants, un pôle culturel d'excellence avec une médiathèque dès 86, hein, une médiathèque et des salles d'exposition d'art contemporain. Donc les toutes premières années, c'était plutôt le musée de Grenoble ou les Fracs Rhône-Alpes qui organisaient des expositions. Et puis à partir des années 90, l'espace d'art, en tout cas, ça s'est professionnalisé. Il y a eu des directions artistiques successives avec des beaux projets et et des artistes qui aujourd'hui ont certaines renommées aussi. Donc ça a toujours été un lieu de proximité, au plus près des habitants et des habitantes, mais aussi un hub pour la création contemporaine depuis 86. Voilà.
Oui, parce qu'un centre d'art contemporain, c'est vrai, dans un village comme Pont-en-Royans, c'est plutôt rare, j'imagine.
C'est pas commun, on va dire. Il y a d'autres exemples, mais non, c'est quand même hardi, on va dire, hein, surtout dans ces années-là. Et je trouve, en tout cas moi, ça fait quelques années que j'y suis, je trouve qu'il y a un vrai attachement des visiteurs et visiteuses, et qui, voilà, ça va vraiment des tout petits qui commencent à venir même avant l'école visiter la halle, et puis jusqu'après, ça touche vraiment, c'est un public qui est vraiment sur toutes les générations, et surtout ce que moi je trouve très touchant, c'est qu'on retrouve des jeunes enfants qui sont peut-être aujourd'hui parents et qui reviennent. Il y a quelque chose de très ancré dans l'esprit, les habitudes des habitants et habitantes, qui perdure et reste, je l'espère, pour les 40, voire 50 années à venir.
Oui, un vrai attachement à la fois localement, donc des habitants et des habitantes, c'est ce que je comprends, mais aussi un rayonnement qui va du coup au-delà de Pont-en-Royans.
Bien sûr, oui, parce que c'est vrai que nous, en tout cas, je parle évidemment plutôt de côté centre d'art, hein, forcément, pour ces points-là, mais c'est vrai que les artistes qui ont été accueillis toutes ces années, c'est des artistes qui ont, à travers des résidences, donc avec des temps aussi des créations un peu plus longs, ils ont appréhender les territoires, et il y a des artistes qui aujourd'hui ont une très belle carrière. Il y a eu, je crois, dans les années 2000, des artistes comme Christian Hôpital, il y a eu Charles Fréger qui est passé par là, un photographe aujourd'hui qu'on retrouve dans pas mal des musées. Plus récemment, on a eu Nicolas Debanne, Raphaël Abroncini. Voilà, on est, certes, on est là pour les publics, mais il y a tout un rôle aussi qui est un peu plus caché d'accompagnement à la création, donc vraiment donner aux moyens aux artistes à la recherche et à la production d'œuvres. Et c'est vrai qu'il y a une longue tradition aussi, et ça forcément c'est dû aussi à la position du centre d'art, qui est dans un site à la fois naturel, magnifique, et puis avec une histoire assez riche. C'est vrai qu'il y a pas mal d'artistes toutes ces 40 dernières années qui ont créé à partir, ou en tout cas en prise directe avec les contextes qui est celui de la halle, à la fois géographique ou plus historique. Voilà. Et donc ça, c'est une richesse sûrement qui perdure, et puis qui va bien au-delà aussi des frontières du village, parce que quand on crée une œuvre qui a cette situation-là, en tout cas qui est très ancrée dans son contexte de production, et après elle circule, c'est un peu le quotidien du village qui circule aussi ailleurs, voilà. Donc là, je pense notamment, par exemple, à des œuvres, je pense à Charlotte Charbonnel en particulier, qui avait travaillé sur les paysages et les grottes du Vercors. Les œuvres sont rentrées dans une collection nationale qui est très largement diffusée. Et du coup, il y a un bout de Vercors un peu partout qui se balade un peu au fil des prêts des œuvres. Ou récemment aussi, je pense à Léa Bourdin, qui avait travaillé sur les forêts du Vercors. Ces forêts ont voyagé en Chine pendant une tournée d'une exposition organisée par l'Institut français à la fin de 2025, début 2026. Donc voilà, ça peut aller vraiment très loin.
Et alors, la halle va accueillir à peu près combien d'expositions chaque année?
On est, on va dire, sur un... on est entre, voilà, autour des 4 dans nos salles principales. Et puis, il y a des projets parallèles, des résidences, de workshops aussi dans les établissements, des showcases, parce qu'on a un espace sur la place de la halle qui a plus vocation à des projets, effectivement, type sortie des résidences comme ça. Donc là, on est plutôt entre 10 et 15 projets aussi un peu plus satellites par an.
Et alors, de quelle manière elles sont choisies, ces expositions ?
Alors moi, je m'occupe aussi de la direction artistique, donc c'est moi qui fais un peu la veille, les repérages et la recherche des artistes. On construit des programmations un peu par année, donc c'est vrai que cette année 2026 est marquée par les 40 ans de la halle, donc on a choisi des expositions qui résonnent soit avec thématiques qui reviennent souvent dans la programmation, qui sont plutôt liées à des questions, on va dire, de paysages en époque, et puis aujourd'hui plutôt des questions liées au vivant et à l'écologie, en quelque sorte. Donc il y a encore temps pour voir l'exposition de Johanna Perret jusqu'à samedi, qui aborde plutôt ces questions-là. On a après une programmation pour les 40 ans vraiment tout au long de l'été qui est plutôt vraiment consacrée à la fête. Et puis pour la fin de l'année, c'est plutôt un partenariat historique avec un lieu de résidence marocain, l'appartement 22, qui est réactivé donc pour accueillir des artistes effectivement internationaux, nord-africains notamment, autour des thématiques plus, on va dire, sociales, en tout cas de réflexion historique et sociale. Voilà. À l'automne chez nous. Donc voilà, c'est plus une programmation hommage au travail qui a été accompli par plusieurs personnes ces dernières années. Donc c'est programmation hommage pour 2026, mais en général, il y a un peu une couleur qui teinte toutes les saisons des manières spécifiques.
Et alors, une petite question me vient concernant du coup l'équipe. Combien de personnes travaillent à la halle?
Ah donc avec moi, effectivement, toujours côté centre d'art, hein, il y a Jonathan Ferrara qui lui s'occupe plutôt des projets pédagogiques et de la médiation culturelle. La médiation culturelle aussi, en salle notamment, il y a des jeunes en service civique chaque année qui nous rejoignent. Donc cette année c'est Amélie Delaigue. Et on a pour tout ce qui est la production de l'exposition et le montage des œuvres de l'exposition, Servin Gorlier qui nous accompagne aussi lors de ces moments plus chantiers, on va dire. Voilà. Et puis côté bibliothèque, il y a Serge Cachard qui est le responsable depuis un an, à peu près un an et demi, de la médiathèque, des Fin Chui, bibliothécaire, avec Fabienne Alexandre aussi. Donc ils sont trois aussi côté bibliothèque, sachant que bon, la bibliothèque après fait partie d'un réseau intercommunal plus large. Donc il y a d'autres collègues qui ponctuellement viennent aussi à la halle.
Donc une belle équipe qui fait vivre ce lieu, donc qui s'appelle la halle. Et d'ailleurs, peut-être qu'on peut revenir sur ce nom. Pourquoi ça s'appelle la halle, tout simplement?
Alors, c'est un nom qui est historique, c'est-à-dire que sur la place de la halle, c'était l'emplacement du marché couvert, tout simplement. Un marché couvert qui après n'a plus, suite à la guerre, aux bombardements qui ont frappé le village et qui ont aussi affaibli les maisons suspendues qui étaient à cet endroit même, qui sont ensuite définitivement écroulées plutôt dans les années 50. Il y avait une halle, il y avait un marché qui s'éteignait sur cette même place qui à l'époque ne donnait pas, on voyait pas la rivière depuis, c'était fermé par d'autres maisons. Mais en tout cas, effectivement, le nom vient de ces structures et de ces usages qui avaient lieu sur la place. Et aujourd'hui, effectivement, on peut y accéder en descendant l'escalier pour entrer dans ces salles qui étaient effectivement, comme je disais tout à l'heure, des pièces des maisons suspendues qui étaient érigées à cet endroit. Voilà.
Et alors, entre donc la destruction de ce marché donc durant la Seconde Guerre mondiale et du coup la naissance du lieu d'art et de la médiathèque, je crois qu'il y a une petite anecdote qu'on a évoquée ensemble hors micro, qu'on pourrait raconter.
C'est assez curieux. En tout cas, la légende dit, c'est comme ça que ça m'a fait présenter, et je pense que comme toute légende, il y a un fond de vérité. Dans les années, effectivement, tout début des années 80, ils étaient en train de réaménager l'actuelle place de la halle. Donc effectivement, il y avait déjà le balcon qui donnait sur la rivière, etc. Donc, grands travaux dans le village, et qui dit gros travaux, aussi dit gros machine. Et il paraît qu'un des engins de chantier s'est enfoncé. Littéralement, voilà, le sol de la place s'est effondré. Et donc, c'est à ces moments-là qu'on a redécouvert, en quelque sorte, ces pièces, ces volumes, ces espaces. Et justement, c'est les maires du village de l'époque, Yves Pillet, qui a eu l'idée de réhabiliter, rénover et redonner, en quelque sorte, au village ces salles qui étaient condamnées depuis 40-50 ans, quoi. Donc, c'est une histoire presque d'une découverte fortuite, mais qui était plus que bienvenue pour pouvoir créer un pôle culturel d'excellence au cœur même du village. Donc, c'est pour ça aussi que quand on rentre, on a une première partie de l'architecture qui est un peu plus moderne, parce qu'effectivement, il y a eu un travail de rénovation et des mises un peu aux normes d'aujourd'hui. Mais puis, les plus on va, par exemple, dans nos deux dernières salles d'exposition, ou même dans l'auditorium qui accueille différents événements liés à des conférences ou aux films, là, on voit bien les côtés plus souterrains, les côtés un peu caves, des pièces voûtées avec des beaux arrondis, on retrouve un peu l'architecture des pierres qui pouvaient être celles des maisons de l'époque. Donc c'est un peu un contraste avec moi, je personnellement j'aime beaucoup. Beaucoup d'artistes aussi qui investissent les salles un peu plus les deux plus petites salles troglodytes aiment beaucoup aussi. Donc un petit côté, une petite signature d'architecture qui rend ces lieux encore un peu plus particuliers.
Oui, un lieu assez unique. Et avant de parler donc du programme spécial pour les 40 ans donc de la halle, peut-être qu'on peut rappeler brièvement les conditions d'accès aux lieux d'art, peut-être les horaires et les tarifs.
Bien sûr, ouais. Tout est gratuit, c'est très simple, donc il faut juste venir aux bons horaires et puis vous serez accueillis toujours avec le sourire d'ailleurs. Et donc l'entrée, on a dit, c'est libre. Et pour les horaires, il y a deux choses à retenir, c'est-à-dire le mardi et le vendredi. C'est que l'après-midi, de 16h à 19h. Et puis, tous les mercredis et tous les samedis, de 9h à midi, et puis de 14h à 18h. Et puis, évidemment, pour les groupes notamment, c'est sur rendez-vous pour des visites particulières. Voilà. Et par contre, comme je le disais tout à l'heure, depuis quelques années, on a un espace vitré sur la place de la Halle, c'est notre showcase. Et là, du coup, c'est tous les jours, à minuit, comme à 3h du matin, à midi. Ouais. C'est quand vous passez devant, vous verrez, au gré de la lumière, forcément. Mais voilà, ça, c'est accessible tout le temps.
Voilà pour les infos un peu pratiques. Et peut-être qu'on peut rentrer maintenant dans le vif du sujet, Julia. Donc, on échange aujourd'hui notamment parce que la halle donc va fêter ses 40 ans. Et à cette occasion, donc il y a un programme spécial qui est mis en place. Quel est le programme ?
Oui, tout à fait. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a un cycle des 40 ans, on va dire, tout au long de l'été. Donc, pour nous, ça démarre les vendredis 22 mai à 19h avec l'ouverture de l'exposition Festivement Vôtre, qui est une exposition collective, donc avec une petite dizaine d'artistes de plusieurs générations qui, à leur manière, travaillent le thème de la fête. Ça peut avoir des résonances en termes vraiment des fêtes d'anniversaire, hein, mais aussi il y a des œuvres qui évoquent plus la fête foraine, et puis il y a une installation notamment qui conclut l'exposition qui est vraiment plutôt niveau boîte de nuit. Donc c'est assez varié, mais chaque œuvre et chaque univers artistique à sa manière aborde qu'est-ce que ça veut dire faire la fête, qu'est-ce que ça veut dire célébrer ensemble. Donc c'est un peu la thématique globale de cette exposition. Donc, elle, je le disais, ouvre les 22 mai. Et puis, on a un gros week-end, vraiment, où là, c'est la fête. On parle pas de fête, mais on fait la fête, qui est organisée avec la bibliothèque, donc la médiathèque intercommunale, mais en partenariat aussi avec l'École des Beaux-Arts, les AD Valence, et surtout l'association Calcaire, qui est une association de diffusion de musique électro d'Aléroïen, une jeune association pontoise aussi. Qui interviendra plutôt pour la partie concert qui termine, qui clôt les week-ends. Mais effectivement, on ouvre nos portes le vendredi 12 juin. À 18h, avec une visite de l'exposition que je ferai, avec une déguisothèque aussi qui sera ouverte pour pouvoir mieux plonger dans le thème de la soirée que je vais, voilà, que je vais vous présenter dans quelques instants. On aura forcément qui dit fête, qui dit ouverture des portes. Il y a un moment de discours pour vraiment lancer les festivités avec un buffet, parce que voilà, je crois de plus convivial que partager un verre et grignoter quelque chose ensemble. Et puis doucement, on arrivera à 21h. Avec un ciné drag show par les collectifs Les Enfants de Diane, un ciné drag sur Titanic. Donc voilà, Titanic, je pense que le film, on n'a pas besoin de le présenter. Et là, ça va être vraiment une performance burlesque où voilà, les performeurs réinterprètent de manière vraiment assez décalée et drôle ces films des années 90. Voilà, avec tout ce qu'il peut y avoir de clichés qui sont véhiculés aussi. Et puis surtout, les particularités de ces types de d'événements, c'est d'être dans quelque chose vraiment d'un peu global. Donc les publics est interpellé, les publics va être aussi va participer à quelque sorte à la performance, et donc on a vraiment hâte d'être à ces moments là pour être dans quelque chose de plus effectivement de démarrer notre week-end avec quelque chose de drôle. Voilà, encore une fois, je le dis, c'est un week-end pour faire la fête.
Et tout un week-end, donc, parce que la fête va se poursuivre, c'est ça, le 13 juin aussi ?
Tout à fait, tout à fait. Donc, on va commencer le 13 juin au matin. Au matin, on démarre avec la compagnie cyclique qui nous propose un marathon littéraire. Donc, il y a un livre qui a été choisi, qui est « Sauvage » de Julia Kerminon. Un livre qui va être lu à tour de rôle par les comédiens de la compagnie, mais surtout les curieux, les curieuses des passages. Donc c'est une performance littéraire et d'interprétation collective et qui va durer jusqu'à 18h sans interruption. Et qui va être aussi rediffusé sur des postes radio, à la halle bien sûr, mais aussi dans le village. Donc c'est vraiment un leitmotiv et un bon son, presque, j'ai envie de dire, des fonds qui va ponctuer toute la journée du samedi. Il y aura aussi des moments dégustatifs qui sont inspirés directement du livre, avec des ateliers cuisine et puis des moments plus de dégustation aussi tout au long de la journée. Et puis, Radio Royan, on vous accueille et on animera un plateau, vous animez un plateau radio à 10h15 sur la place de la Halle, pour retracer avec nous et avec, pareil, les personnes qui ont envie de partager un souvenir ou un anecdote de ces 40 dernières années. Donc l'idée, c'est d'avoir un moment plus historique, rétrospectif, mais encore une fois, au plus près aussi de ce qui est le vécu des gens aussi, pas justement en termes de la programmation qui a été faite cette année. Pardon, toute cette année, donc à 10h15.
Et à noter que ce plateau radio, j'ajoute, aura lieu en direct, donc c'est vrai qu'on pourra l'écouter donc aussi sur les ondes de Radio Royan, donc à 10h15 le 13 juin.
Oui, voilà, on a hâte en tout cas. Et puis, il y a en fin de matinée, il y a plus des activités pour les enfants avec des lectures d'histoire par mes collègues les bibliothécaires. Ça, c'est plutôt une activité pour les 3-10 ans. Et je le disais, il y a des ateliers cuisine qui sont proposés autour du livre Sauvage. Et donc, à partir des 10h, voilà, les personnes qui le souhaiteront pourront mettre la main à la pâte pour préparer un buffet littéraire et gourmand qui sera à déguster collectivement à partir de midi. Donc, la matinée est un peu rythmée par ce type d'activité. Et puis, on réattaque à 14h30 avec plutôt un atelier en lien avec l'exposition. Qui est animé par mon collègue Jonathan Ferrara, qui proposera au aux personnes qui auront envie de passer là, de créer un gâteau d'anniversaire, de garnir un gâteau d'anniversaire, mais sous forme d'une petite sculpture qui résonnera aussi avec des sculptures qui sont dans l'exposition. Donc c'est un atelier qu'on appelait Pimp My Cake. Donc chacun pourra répartir après avec son gâteau d'anniversaire sculpture après cet atelier. Il y a 16h30 un autre moment de lecture pour les plus petits. Et puis, on arrivera à 18h avec la fin du marathon littéraire, vraiment la ligne d'arrivée de cette performance d'endurance qui marque un peu les débuts de la soirée. Et à 18h30, on accueille les étudiants et les étudiantes de l'ESAT Valence qui nous présenteront une performance dégustative autour des plantes. D'ailleurs, la performance s'appelle « Les goûts des plantes ». Et voilà, ce sera le moment de découvrir, de dîner qu'ils auront préparé, mais justement de vivre le moment du buffet, certes convivial, mais aussi comme un vecteur de pour qu'on puisse partager des histoires, des récits, voire des recettes. Donc effectivement, qu'est-ce que à partir de quelque chose qu'on déguste et que eux ils auront préparé, donc forcément nous raconterons aussi un peu ces process, comment on peut créer du lien et on peut aussi échanger à partir de cela. Donc ça, c'est une performance vraiment à l'heure de l'apéro. Et puis, à 20h, la soirée commence sur la place de la Halle avec la programmation imaginée par les collectifs calcaires, donc avec plusieurs groupes DJ qui se succèdent sur scène. Il y a un groupe suisse plutôt de pop, Citron Citron, qui démarre vraiment à 20h. Puis on a INCR, qui est un groupe grenoblois plutôt, qui est vraiment de live électro. Et puis un DJ set par DJ Cléo plus tard dans la soirée. Et tout ça est accompagné aussi par un VJing de Simon Chesnat, qui va habiller les façades de la place de la Halle avec des images qu'il aura créées, mais qu'il aura aussi créées avec les publics en tout début de soirée, parce qu'il y a un atelier participatif de visiophare, de mapping collaboratif en quelque sorte. Donc plein d'autres surprises à découvrir dans la soirée aussi. Voilà.
Eh bien, un beau programme donc pour ce 12 et 13 juin pour fêter les 40 ans de la Halle. Peut-être qu'on peut dire un mot, alors c'est une date un peu plus lointaine, mais sur le 4 septembre.
Oui, c'est vrai que tout le cycle festif se termine aussi le 4 septembre, avant-dernier jour de l'exposition, où on projettera un film qui est Félix en Wonderland de Marie Lozier. Donc Marie Lozier qui présente une autre œuvre dans l'exposition, mais qui est par ailleurs, et peut-être avant tout, cinéaste. Et donc elle est peut-être plus connue pour ses documentaires que pour ses documentaires d'auteur que pour son travail plastique. Mais en tout cas, on va projeter Félix en Wonderland qui suit la figure de Félix Rubin, qui est un des DJ de la scène berlinoise, très, certes, underground, mais assez connu. Et donc, c'est un peu un film qui retrace la rencontre entre deux artistes et vraiment à ne pas perdre, donc à ne pas rater, les 4 septembre à partir des 18h. Et peut-être avec d'autres surprises, mais sur lesquelles on ne peut pas trop communiquer encore, mais
c'est
voilà,
un peu tôt,
en tout cas, ouais. Un moment de fin de ce cycle, les 4 septembre, à la rentrée.
Bon, le bouquet final donc de cette programmation donc à l'occasion des 40 ans de la Halle, et c'est Julia Tourati, qui, je le rappelle, est responsable du lieu d'art la Halle à Pont-en-Royans, donc qui nous détaillait toute cette programmation et qui nous parlait donc également de l'histoire de ce lieu. Eh bien, un grand merci Julia d'avoir été en direct avec nous aujourd'hui donc dans l'émission Micro-ondes.
Merci et à bientôt.
À très bientôt. À Et on va poursuivre tout de suite par une pause musicale, donc en lien avec les échanges donc que nous venons d'avoir avec Julia. On va écouter un extrait d'un titre donc du groupe suisse Citron Citron, qui sera en concert donc pour l'anniversaire de la Halle le 13 juin. Et le titre s'appelle « Par un temps pareil ». On écoute. « Citron Citron par un temps pareil. Voilà, donc un extrait de ce groupe suisse qui sera en concert, donc je vous le rappelle, le 13 juin à La Halle, donc à l'occasion des 40 ans de ce lieu. La Halle, donc, qui se situe à Pont-en-Royan. Et on termine tout de suite cette émission micro-ondes, donc je vous le rappelle, en direct sur les ondes de Radio Royan-Vercors par un agenda de cette fin de semaine, un agenda qui nous est concocté par Céline. On écoute.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cet agenda avec les prochaines sorties culturelles pour cette fin de semaine sur les territoires Royan et Vercors. On vous annonce que cette exposition au Centre d'art contemporain, la Halle à Pont-en-Royan, qui s'appelle Jour blanc de Johanna Perret, tire sur sa dernière semaine. C'est en place depuis le mois de janvier et ça se termine ce week-end, le 2 mai. Donc n'hésitez pas à aller la découvrir. On rappelle que Johanna Perret peint la chaîne des Alpes. Les montagnes sont son terrain d'exploration et de création, les hauts sommets majestueux, tout comme les constructions issues de l'industrialisation et du tourisme. Ces traces visibles et irréversibles de la transformation presque aboutie de cet écosystème de plus en plus fragile. Ce sont donc des peintures à l'huile qui sont donc adoptées par une technique en particulier, le glacis, utilisé depuis la Renaissance. À découvrir donc sur les horaires d'ouverture de la Halle du Centre Contemporain à Pont-en-Royan jusqu'au 2 mai. Une autre exposition, ça se passe à la Grange Ouverte à Saint-Martin-en-Vercors. Ça s'appelle Vercors et Merveilles. Ça commence ce 1er mai à partir de 10h jusqu'à 19h. Du 1er au 9 mai, c'est jusqu'à 19h. Et puis le 10 mai, ce sera de 10h à 18h. Vercors et Merveilles, c'est une exposition de technique mixte. Et il y aura aussi donc d'autres propositions autour de cette exposition de sorties et de films. Tout est à découvrir sur le site soit de la Grange Ouverte, soit de Vercors et Merveilles. Un autre temps fort pour ce 1er mai, c'est le traditionnel vide-grenier de Saint-Jean-Royan pour ce jour férié. Rendez-vous place de la mairie et autour dans les rues adjacentes pour découvrir et chiner des merveilles et des trésors sortis des greniers. C'est toute la journée dès 8h du matin pour les amateurs et amatrices d'objets de seconde main. Et pour cette fin de semaine également, c'est la fête de la poule et de la graine dimanche 3 mai. C'est de 9h à 17h à Saint-Laurent-en-Royan. Il y a un programme assez riche avec des choses qui se passent à la bibliothèque donc de Saint-Laurent, à la DMR, à la salle des fêtes, sur la place de l'église. Il y en aura pour tous les goûts, le marché de la grainothèque, des grands jeux en bois, des stands d'associations et puis des ateliers de fabrication de moutarde. Ça, c'est à 10h à la bibliothèque avec Janine. Il faut piler les graines, mélanger les ingrédients et repartir avec votre bocal de moutarde à l'ancienne aromatisée. Et puis à 10h30 devant la bibliothèque, une animation abeille et apiculture avec Antonin qui vous dira tout sur la vie de l'abeille et le travail de l'apiculteur. Ces deux ateliers sont sur réservation conseillée. À 11h15 à la bibliothèque, il y a des contes, histoires de cocottes, animaux et plantes. Vous pouvez venir écouter les belles histoires racontées par Frédéric pour tout public. Et puis l'après-midi, dès 13h30, une sieste musicale vous est proposée dans le parc. À 14h15, un atelier dessin naturaliste avec Émilie Van Volsem, qui est d'ailleurs la marraine, qui est illustratrice naturaliste, marraine de cette fête. L'atelier de dessin, donc, c'est à 14h15 pour adultes et enfants à partir de 6 ans. Et à 15h30, c'est à la ludothèque un tournoi de jeux. À 16h30, à la bibliothèque, Émilie Van Volsem dédicace ses albums. Et à 17h, remise des prix et du concours de dessin et tirage de la tombola gourmande. Voilà pour cette riche journée autour de la poule grise, notamment. De la poule à la graine, c'est donc dimanche 3 mai de 9h à 17h dans pas mal d'endroits de Saint-Laurent-en-Royan. Et pour terminer cet agenda, dimanche 3 mai, il y a une projection et une table ronde en soutien au Rojava suite à l'agression militaire du régime de Damas, puis des fondamentalistes qui ont pris sa suite sur le Rojava et les populations kurdes En janvier 2026, un petit groupe local du sud Grésivaudan a décidé d'organiser une projection discussion sur la situation actuelle du Rojava. Le film Belki Sibé d'Alexis Daloumi parle du point de vue de jeunes internationalistes qui se sont rendus là-bas pour soutenir la révolution démocratique et féministe. Pour faire le point sur la situation du Rojava, l'organisation politique internationaliste Young Struggle sera présente pour répondre à vos questions. C'est donc au poulailler à Saint-Just-de-Clé ce dimanche 3 mai à partir de 14h30 et ce sera l'occasion de partager un goûter autour d'un bon thé. La librairie La Bouillotte de Saint-Jean-Royan sera présente avec un infokiosque avec leurs livres et un infokiosque sur le sujet. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez écrire à lepoulailler@domfr.com. Voilà pour les propositions de cette fin de semaine.
Et je vous retrouve toujours en direct pour clôturer donc cette émission Micro-ondes, la nouvelle émission donc en direct de Radio Royan Vercors sur 93 FM ou à écouter sur notre site internet en streaming radioroyan.fr. C'est une émission donc qui a lieu dans nos studios de Saint-Jean-en-Royan et on reçoit donc des invités en direct pour évoquer des actualités du territoire. Et j'en profite pour remercier nos deux invités du jour, Océane Chazot qui coordonne donc l'association Super Maman dans la Drôme et Julia Tourati qui est responsable du lieu d'art La Halle à Pont-en-Royan. Un grand merci également à Gaëlle qui a jonglé aujourd'hui côté technique avec les différents sons à lancer, les petits couacs des appels téléphoniques en direct. Merci Gaëlle donc pour son sang-froid. Et la semaine prochaine, vous retrouverez donc pour une prochaine émission Micro-ondes. Donc jeudi 7 mai, vous retrouverez Charlène dans cette émission, donc avec un invité en direct qui sera Julien Sirène, co-directeur de la CRIRAD. C'est la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. C'est une association donc qui est basée à Valence. Et ce sera un écho à l'actualité internationale, donc à l'occasion des 40 ans de la catastrophe de Tchernobyl. C'est la date en fait à laquelle cette association donc locale s'est créée. Et Julien Sirène reviendra donc sur l'histoire de l'association, sur ses actions et sur les enjeux actuels donc autour de cette question de la radioactivité et du nucléaire. Donc à ne pas manquer jeudi prochain, jeudi 7 mai, toujours à midi, dans l'émission Micro-ondes. Eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et donc à très bientôt sur les ondes de Radio Royan-Vercors.